Au Salon de l'Agriculture, c'est l'heure du journal puisqu'il est 18h. Et le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'incroyable feuilleton catalan se poursuit. Deux mois après les élections, la région n'a toujours pas de président. Le Parlement catalan accuse Madrid de dérive autoritaire et assure que Carles Puigdemont est un candidat légitime. Après l'assassinat d'un journaliste d'investigation le week-end dernier, l'onde de choc atteint le gouvernement slovaque. Un parti minoritaire menace de quitter la coalition tripartite, ce qui pourrait conduire à une nouvelle élection. En France, un rapport de la contrôleur des lieux de privation de liberté pointe les conditions d'accueil indignes au centre hospitalier de Saint-Étienne pour les patients relevant de la psychiatrie. Et puis nous avons un invité en direct du Salon de l'Agriculture avec Pierre-Marie Aubert de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Nous verrons dans quelle mesure l'agriculture peut se passer d'herbicides et de pesticides. Le Parlement catalan accuse l'État espagnol de dérive autoritaire. Dans sa première motion, adoptée depuis les élections régionales du 21 décembre, le Parlement défend la légitimité de l'indépendantiste Carles Puigdemont, président régional destitué par Madrid. La correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
Sans surprise, la proposition de résolution présentée au Parlement catalan par le groupe Ensemble pour la Catalogne, la formation emmenée par l'ancien président Puigdemont, a été adoptée avec le soutien des deux autres partis indépendantistes catalans, ERC et la CUP. Ce texte vise notamment à dénoncer la destitution illégale de Puigdemont, la mise sous tutelle de la Catalogne et à approuver le référendum d'autodétermination du 1er octobre, sans toutefois ratifier explicitement la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, afin d'éviter les foudres de la justice espagnole. C'est un texte symbolique, mais qui montre bien que les indépendantistes catalans veulent maintenir le bras de fer avec le gouvernement central de Rajoy. Ce texte permet aussi de confirmer la légitimité de l'ancien président Puigdemont. Mais que va-t-il se passer désormais? Eh bien, selon la presse espagnole, une structure légale baptisée Espace Libre de Bruxelles pourrait bien voir le jour dès la semaine prochaine. Elle reposerait sur un Conseil de la République, c'est-à-dire un gouvernement catalan en exil à Bruxelles, avec à sa tête Puigdemont et une assemblée des représentants de la République. Parallèlement, un président légal de la Catalogne pourrait être investi, toujours selon la presse espagnole. On parle de Jordi Sánchez, le numéro 2 du parti de Puigdemont, mais il est toujours en détention provisoire. Dans ces conditions, on voit mal comment la situation va pouvoir se débloquer en Catalogne.
C'est l'enthousiasme à Bruxelles. La commissaire européenne aux affaires sociales, Marianne Thyssen, parle d'un accord historique. Les négociateurs du Parlement et du Conseil européen sont parvenus à une approche commune pour réformer le travail détaché. Ils ont fixé à 12 mois la durée maximale de détachement. Les États auront 2 ans pour transposer la directive dans leur système juridique et dans l'immédiat, le transport routier n'est pas concerné. Cet accord préalable doit encore être validé par les 28 États membres. En Slovaquie, la coalition au pouvoir est en difficulté. Après le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et les révélations de soupçons de corruption de haut niveau, un parti de la coalition envisage sérieusement de quitter le gouvernement. Plusieurs personnalités politiques ont déjà démissionné et la police slovaque a mené une opération dans les milieux italiens d'Anne Demstein.
Dans son dernier article, Jan Kuciak affirmait que 2 personnes qui ont un accès quotidien au Premier ministre slovaque étaient proches d'un Italien accusé d'être lié à la mafia. Et le journaliste d'ajouter, je cite, « Les Italiens liés à la mafia ont trouvé un second foyer en Slovaquie. Ils ont commencé à faire des affaires, recevoir des subventions, collecter des fonds européens, mais surtout établir des relations avec des personnalités politiques influentes jusqu'au gouvernement slovaque », fermait les guillemets. Cette révélation de corruption au plus haut niveau commence à secouer le pouvoir en place. Les 2 personnes mises en cause par le journaliste, bien qu'elles nient toute implication dans le meurtre, ont démissionné de leur poste le temps de l'enquête. Il s'agit du secrétaire du Conseil de sécurité et d'une assistante du Premier ministre. Le ministre de la Culture, lui aussi, a pris l'initiative de partir, expliquant qu'il ne pouvait pas supporter qu'un journaliste ait été tué alors qu'il était en fonction. Une petite formation politique d'opposition, elle, réclamait en vain la démission du ministre de l'Intérieur et celle du chef de la police, les accusant de n'avoir pas pris au sérieux les menaces qui pesaient sur le journaliste. Le chef de la police a expliqué aujourd'hui qu'une opération a eu lieu ce matin dans l'est de la Slovaquie. Plusieurs hommes d'affaires italiens ont été interpellés et des pièces à conviction saisies. Il est possible que la mafia calabraise soit impliquée.
Nadine Epstein. En Syrie, un convoi d'aide humanitaire a pu entrer dans l'enclave kurde d'Afrin. C'est le premier depuis le début de l'offensive turque en janvier. En ce qui concerne l'enclave rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas, l'ONU espère pouvoir livrer de l'aide humanitaire dans la ville de Douma d'ici quelques jours, mais estime que la pause de 5 heures, pause quotidienne décrétée par Moscou, n'est pas suffisante. Il y a du beau monde aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Hervé Gardette, bien sûr, mais également une pléiade de ministres, à commencer par celui de l'Agriculture, Stéphane Travert. On avait aussi Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Jacques Mézard ou encore Frédéric Vidal. Sur le Salon, on peut découvrir toutes les innovations dédiées à l'agriculture, de la bonne utilisation des données agricoles au dernier robot qui arrache les mauvaises herbes. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Pour répondre à la demande des consommateurs qui veulent manger plus sain et sans pesticides, de plus en plus de chercheurs et d'entrepreneurs du monde agricole proposent aux agriculteurs des solutions pour diminuer les produits phytosanitaires, voire les supprimer. Est-ce qu'il y a des progrès majeurs ?
Oui, et notamment sur le sujet qui fâche en ce moment, le glyphosate, qui fâche en tout cas les agriculteurs. Cet herbicide diffusé dans les années 70 est largement remis en question. Aujourd'hui, il sera probablement interdit d'ici quelques années. Alors comment faire disparaître les mauvaises herbes dans les cultures sans l'utiliser, ce glyphosate ? Peut-être grâce aux robots. Petits, gros, ils sont partout dans les allées du salon. Cette année, notamment sur le stand de l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Technologie pour l'Environnement et l'Agriculture. Thibaut Tourette y est doctorant. Il a aidé à l'élaboration de deux de ces robots, l'un pour la vigne, l'autre pour le maraîchage.
On présente un petit robot là qui vont pouvoir travailler à deux en coopération, avec un qui va pulvériser d'un côté et l'autre qui va récupérer le surplus de l'autre côté de la vigne. Typiquement, ça permet donc de récupérer le surplus et en plus d'éloigner l'agriculture des produits dangereux durant la pulvérisation. On présente aussi un autre robot beaucoup plus gros qui a été développé sur un projet qu'on a avec une entreprise privée, Citia, qui lui a pour but de faire du désherbage mécanique complet, donc d'éliminer tous les produits phytosanitaires. Donc là, on va utiliser par exemple des lasers, des caméras 3D, ce genre de choses, pour le guider par rapport au rang de culture. Et après, on a une deuxième chose, c'est-à-dire que l'outil qui est derrière est lui aussi actif, donc on a un petit translateur qui permet de le décaler sur le côté pour suivre parfaitement le rang de culture et passer bien entre les rangs.
Alors sur ce créneau de la robotique, les startups commencent à investir le marché français, mais qu'en est-il des grandes cultures et notamment des grandes cultures tropicales dont les produits sont consommés partout dans le monde et qui sont également très gourmands en pesticides, cacao, café, huile de palme? Le CIRAD, le Centre de Recherche Internationale en Agronomie et Développement, se penche sur ces questions depuis longtemps déjà. François-Régis Goebel y travaille dans l'unité agroécologie.
On essaye de développer des systèmes de culture innovants, d'introduire des plantes de service. Donc ça peut être des services pour enrichir la fertilisation, pour attirer des insectes, des prédateurs, des parasitoïdes, notamment des plantes de couverture aussi pour empêcher les mauvaises herbes de pousser et puis bien sûr réduire les herbicides. Ben, par exemple, à La Réunion notamment, on met des plantes de service à l'intérieur des champs de canne à sucre. Donc ça peut être des graminées, des légumineuses, justement pour attirer, enrichir la fertilité, empêcher l'enherbement et puis attirer des insectes.
Est-ce que pour l'instant, ça a prouvé son efficacité ?
Le plus conséquent, je dirais, comme résultat, c'est la réduction des herbicides. Donc on arrive vraiment à des niveaux très forts.
Mais ce qui est possible sur des petites ou moyennes surfaces ne l'est pas encore toujours sur de très grandes exploitations. Christian Silas dirige, lui, l'unité de recherche sur les bioravageurs au CIRAD, toujours.
Dans le cas de certaines cultures pérennes, industrielles, comme par exemple le palmier à huile, c'est vrai que parfois il y a des grandes surfaces, des grandes plantations, c'est dans des mains de grands groupes privés, et c'est vrai que dans ce cas-là, pour eux, ils ont des systèmes qui fonctionnent avec des pesticides et tout ça, ils ont du mal à changer de pratique. Et c'est vrai que c'est plus simple aussi de résoudre des problèmes de maladies ravageurs sur des petites surfaces ou en morcelant le paysage. C'est vrai, quand on a des plantations d'un seul tenant de milliers d'hectares, c'est beaucoup plus compliqué à résoudre les problèmes de maladies.
Mais entre les robots, l'agriculture de précision qui permet d'ajuster très précisément les doses de phytosanitaires, l'agriculture dite de couvert, le biocontrôle ou encore l'agroforesterie, elles existent, les solutions pour sinon supprimer, du moins diminuer fortement l'utilisation de pesticides et d'herbicides. La question aujourd'hui serait plutôt comment le faire à très grande échelle.
Merci Anne-Laure. Vous restez avec moi pour interroger notre invité. Bonsoir Pierre-Marie Aubert.
Bonsoir.
Vous travaillez à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous êtes spécialiste des politiques agricoles et alimentaires. Alors, on l'a entendu, des solutions existent. Mais est-ce qu'une agroécologie est vraiment envisageable à grande échelle ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à la question, il faut d'abord prendre le problème peut-être dans un sens un peu différent de celui qui est posé. En général, quand on parle de l'agroécologie à grande échelle ou de la diminution des pesticides, on renvoie vers le problème que ça a posé en termes de baisse des rendements et de baisse de la production. Et on dit, ça va poser un risque en termes de sécurité alimentaire de la France, de l'Europe et plus largement du monde, puisque nous exportons. On peut remettre en cause ce premier principe en disant, attention, aujourd'hui, d'après les données dont on dispose de l'Autorité européenne de santé et de sécurité alimentaire, on mange trop et on mange mal. On mange à peu près 30 à 40% trop de calories et on mange à peu près 50 à 80% trop de protéines animales. Le fait qu'on mange trop et qu'on mange mal, il a une deuxième conséquence en termes de sécurité alimentaire, globale cette fois, c'est que l'Europe ne nourrit pas le monde, c'est le monde qui nourrit l'Europe. C'est-à-dire que pour nourrir les animaux qu'on mange, on importe l'équivalent de 40 millions d'hectares de terre. 25% de notre surface agricole utile, eh bien, on est obligé d'aller la chercher à l'extérieur de l'Europe pour pouvoir nourrir le bétail, qui ensuite vient nourrir les hommes, les Européens que nous sommes, et qui ensuite cause un certain nombre de problèmes, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question « peut-on produire sans pesticides ?», il faut d'abord se dire « peut-être qu'on peut ne pas s'obliger à produire toujours plus, ou en tout cas au moins autant avec les sans pesticides. »
Sans compter les problèmes de gaspillage alimentaire. On gaspille beaucoup d'alimentation.
Sans compter les 30% de gaspillage, de perte des gaspillages alimentaires en général.
Alors, modifier nos comportements alimentaires, est-ce qu'on est prêt à ça, notamment en France? Et est-ce que nos agriculteurs, qui ont évolué dans un système qui est celui qu'on connaît, ils sont prêts aussi?
Alors, modifier nos comportements alimentaires, premier élément, on ne sait pas très bien faire. En tout cas, les politiques publiques qu'on a aujourd'hui ne mettent pas le paquet, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le fait de transformer les comportements alimentaires de nos concitoyens. Aujourd'hui, l'essentiel de la politique alimentaire, c'est le programme national nutrition santé, que, à mon avis, aucun auditeur ne connaît, et c'est le message qui sont communiqués dans les publicités de l'agroalimentaire, manger 5 fruits et légumes par jour, manger et bouger, etc., dont on vient de montrer une récente rapport de l'INSERM, qu'ils ont plutôt un effet contre-productif. Donc aujourd'hui, non, nos responsables politiques ne sont pas forcément à la hauteur de l'ambition de changement de comportement alimentaire. Par contre, les agriculteurs, une partie d'entre eux, et je pense si on les accompagnait, la majorité d'entre eux, sont favorables à réduire les pesticides, à transformer leur système de culture vers moins de pesticides et vers une conversion agroécologique. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent et je pense qu'il faut leur faire confiance.
Mais alors aujourd'hui, on signe des traités internationaux qui ne vont pas exactement dans le sens des évolutions que vous appelez de vos voeux.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème que pose la signature des traités de libre-échange, c'est la mise en concurrence de nos agriculteurs avec d'autres agriculteurs qui produisent avec d'autres modes de culture, y compris avec des pesticides qui sont aujourd'hui interdits en France et en Europe, et donc du coup avec des coûts de production qui sont en général moindres. Et donc la compétition sur un même marché, parce qu'on fait tomber les tarifs douaniers de produits agricoles produits dans des conditions différentes avec celles de nos agriculteurs, fait que la transition est très coûteuse et en fait elle est quasiment impossible pour des questions de marché.
Vous disiez tout à l'heure, il y a le point de la sécurité alimentaire et puis celui du revenu des agriculteurs qui disent beaucoup, dont beaucoup disent, si on n'a plus de pesticides et herbicides, on va produire moins. Et déjà qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on va gagner encore moins. Alors ça, comment on peut répondre à cette angoisse?
Alors on va produire moins et on va produire avec des coûts de production supérieurs face à une compétition qui, elle, va produire à des coûts inférieurs, etc. Donc effectivement, le risque est réel. Je pense que là, on rejoint en fait autour du problème du revenu des producteurs le problème de la diversification des régimes alimentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions agronomiques pour produire avec moins de pesticides, elles existent, elles reposent en grande partie, pas uniquement, il y a des solutions mécaniques dont vous avez parlé dans votre reportage, mais il y a d'autres solutions agronomiques qui reposent sur la diversification des itinéraires culturaux et qui supposent en fait une diversification des débouchés et donc une diversification des marchés. Mais pour que demain, il y ait des marchés sur le chanvre, sur les lentilles, sur le pois protéagineux, il faut que les comportements alimentaires, encore une fois, ils changent. Et donc là, on peut reboucler la boucle. Donc, pour offrir des marchés aux producteurs sur des nouvelles cultures qui vont leur permettre de se passer de pesticides, eh bien, il faut encore une fois pouvoir jouer sur les marchés, donc sur les comportements alimentaires.
Merci Pierre-Marie Aubert. Et pour aller plus loin, rendez-vous dimanche sur France Culture, la France de l'après-glyphosate, vouloir pour pouvoir. Ce sera le titre du magazine de Cause à Effet présenté par Aurélie Luneau. Attendre pendant 7 jours en urgence sans avoir la possibilité de se laver, de se changer ni de téléphoner, c'est le sort qui a été réservé à certains patients relevant de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté vient d'adresser à la ministre de la Santé des recommandations en urgence relatives à ce centre hospitalier. Bonjour Charlotte Lalanne.
Bonjour Aurélie.
Adeline Hazan qualifie d'indignes les conditions d'accueil des patients du pôle psychiatrie. Elle souligne notamment que des patients étaient attachés au niveau des mains ou des pieds. Mais l'hôpital de Saint-Étienne n'est pas une exception.
Pas une exception, loin de là. En mars 2016, le centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse a également fait l'objet de ce type de recommandation. Deux mois plus tard, mai 2016, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie le bilan accablant de ses visites dans 112 établissements de santé mentale. Elle pointe les atteintes récurrentes à la dignité et à l'intimité des patients, avec le développement de la vidéosurveillance jusqu'à l'installation de micros et de caméras thermiques dans les chambres. Et puis surtout, ce rapport épinglait déjà deux pratiques en recrudescence depuis une vingtaine d'années. D'une part, la contention mécanique, c'est-à-dire le fait d'attacher les patients à leur lit. D'autre part, l'isolement. Plus de 28 000 personnes hospitalisées à temps plein en psychiatrie ont été placées en isolement en 2015, soit plus de 8% des malades, un taux en constante augmentation. Alors, à chaque rapport, le ministère de la Santé est alerté, mais rien ne semble changer. Et pourtant, depuis janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé donne un cadre juridique spécifique à l'isolement et à la contention. Ils sont définis comme des pratiques de dernier recours destinées à prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui sur décision d'un psychiatre et pour une durée limitée. Mais en pratique, les moyens manquent et les soignants sont de moins en moins formés. Enfin, ce nouveau scandale du CHU de Saint-Étienne révèle qu'au-delà des murs de ces établissements, c'est tout le système de contrôle qui est défaillant. Ainsi, en octobre dernier, la Haute Autorité de Santé avait certifié cet hôpital pour la qualité de ses soins psychiatriques. Quant à l'Agence régionale de santé, elle n'a livré aucune alerte.
Merci Charlotte Lalanne. Demain à 17h, le magazine de la rédaction s'intéressera à la santé mentale avec un reportage de Sarah Maquet sur la schizophrénie. Marine Le Pen a été mise en examen ce matin pour diffusion de messages à caractère violent susceptibles d'être vus par des mineurs. En décembre 2015, la présidente du Front National avait relayé sur Twitter des photos de victimes du groupe État islamique. Elle risque 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. « J'ai honte pour l'image qu'on renvoie au monde », réagit Marine Le Pen. « Quand on dénonce Daesh, on est mis en examen. S'il s'agit de me faire taire, ils n'y arriveront pas. » Marine Le Pen qui annonce par ailleurs qu'au congrès du FN, le 11 mars, elle présentera un nouveau nom pour son parti. Comment accompagner les personnes à tendance homosexuelle? C'est le thème de deux conférences proposées par l'évêché de Bayonne. Des conférences qui font hurler les associations LGBT parce que les organisateurs de ces réunions prônent la chasteté pour les gays. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Des associations LGBT viennent de saisir la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires.
Effectivement, au cœur de cette polémique, il y a l'association Courage. Elle a été fondée il y a une trentaine d'années aux États-Unis par des catholiques ultra-conservateurs. Elle a essaimé en France à partir de 2014 sous l'impulsion d'un prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, le père Louis-Marie Guiton. Nous avons retrouvé un entretien qu'il avait donné il y a 3 ans pour le site de Famille Chrétienne au sujet des sessions qu'il organise régulièrement sur le thème de l'homosexualité via l'association Courage.
Ça n'est pas une session théologique ou intellectuelle, mais plutôt un parcours pratique. Qu'est-ce que l'Église peut proposer à ces personnes qui ressentent une attirance homosexuelle? 5 objectifs. La chasteté, selon l'enseignement de l'Église catholique. La prière et le don de soi. La fraternité et l'amitié. Le soutien mutuel. Et enfin, le témoignage que l'on peut apporter.
Le ton se veut bienveillant, mais le message est clair. L'homosexualité est un péché. Courage prône donc la chasteté pour les gays, mais Louis-Marie Guiton se défend de toute thérapie de conversion. Plusieurs associations LGBT ont saisi la Miviludes, dont David et Jonathan. Marianne Berthet-Guachot est membre du bureau national de cette association de chrétiens homosexuels et elle craint des dérives sectaires dans ses réunions réservées aux homosexuels et à leurs proches.
Le discours de Courage n'est pas réellement discriminatoire envers les personnes homosexuelles, puisqu'ils disent qu'ils veulent les accueillir et les accompagner. Ce qui nous inquiète, c'est la manière dont Courage fonctionne en parlant d'accompagnement des personnes homosexuelles, en mêlant un petit peu le psychologique et le spirituel, et puis en proposant des guidances en fait par des sortes de chapelains qui leur proposeraient réconciliation et direction dans leur vie spirituelle.
Les associations LGBT demandent au diocèse de Bayonne qui accueille ces réunions de les annuler et elles soulignent l'irresponsabilité de la Conférence des évêques de France. Aucune de ces deux instances catholiques n'a souhaité répondre à nos demandes d'interview.
Merci Antoine Marette. 1,930 milliards, c'est le bénéfice net record dégagé par PSA en 2017. Le constructeur automobile a publié des résultats qui illustrent le succès des derniers modèles et fort de ces bonnes nouvelles, le président du directeur de PSA a annoncé la distribution aux salariés d'une prime d'intéressement de 2 600 € en moyenne. Demain, le temps sera généralement perturbé. 33 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Certains du nord au nord-est pour neige verglas, d'autres pour vagues submersion, inondations ou vent violent. Les températures minimales iront de moins 4 à 7 degrés. L'après-midi, il fera 2 degrés dans le nord-est, 7 à 14 en général, jusqu'à 16 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun et le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h. Le flash sera présenté par Ilan Malka.